Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
On parle beaucoup des violences policières, et pour cause, elles ont augmenté de 40% depuis les Gilets jaunes, donc depuis 2018. C'est pas vraiment un hasard, c'est lié aussi à des décisions qui sont prises au-dessus des policiers, évidemment. Mais on se demande jamais vraiment ce que c'est la vraie vie d'un policier. Et mon invité du jour, Michael Corr, qui est journaliste à La Croix, a passé un an dans un commissariat à Roubaix. Il en a sorti un ouvrage qui s'appelle Le Central. Et avec lui, on va parler avec beaucoup de nuances de ce que c'est que la vie d'un policier, de ce que c'est que la police en France. C'est une conversation qui est hyper intéressante parce que forcément, c'est pas des sujets sur lesquels on a des avis très nuancés. C'est très binarisé en ce moment, très polarisé. Donc ça va remettre un peu de la nuance, vous allez voir. Et en même temps, on va pas du tout ignorer les violences policières. On en parle quasiment tout le long. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse écouter la conversation. Allez, Vlan. C'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Michael.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien.
Alors t'as écrit un bouquin sur la police.
Ouais.
Et avant ça, tu avais écrit un article sur la police. C'est quoi l'origine de ta réflexion? Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là en particulier?
En fait, c'est venu d'une question posée par une collègue, enfin qui est ma chef, qui est une question redoutable parce qu'elle est toute simple. C'était au moment des gilets jaunes. C'était pourquoi il y a autant de violence. Et en fait, c'est une question que je trouve redoutable parce qu'elle se posait au moment des gilets jaunes, elle se pose maintenant au moment de la réforme des retraites, elle se pose au quotidien dans certains quartiers, etc., etc. Et en fait. Bon, j'ai rencontré beaucoup de policiers pour faire ce premier sujet sur les violences, mais qui était vraiment voilà sur un angle très spécifique, sur le maintien de l'ordre et tout. Et en fait, à cette occasion-là, j'ai eu l'opportunité de rentrer pour la première fois dans un commissariat. Et je me suis senti un peu comme un enfant qui demande en permanence « ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi ?» C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un avis sur la police, je parlais de police avec des amis, etc. On a un débat sur la police qu'on veut et c'est normal, mais qu'en fait je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, comment les gens sont organisés, qu'est-ce que c'est que ce service, pourquoi, à quoi il sert, qui commande qui et pourquoi, etc. Et en fait c'est parti de là. Je me suis dit en fait j'ai envie de faire quelque chose qui soit pas un travail à thèse, pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais pour raconter comment ça se passe sur le terrain. Voilà.
Et ton premier article, il était plutôt, entre guillemets, à charge, si je me souviens bien, sur les violences policières, qui n'a pas beaucoup été apprécié du coup par le corps policier, si je me trompe pas, mais tu peux me corriger si c'est pas le cas.
Bah ça dépend lesquels. Alors c'est vrai qu'il a été reçu de manière un peu en fait, ce qu'ont surtout mal vécu les policiers, surtout ceux que j'avais rencontrés longuement, c'est que eux m'ont parlé de leur quotidien de manière très générale, et puis moi j'ai centré évidemment sur les violences. Après c'était un article qui était aussi vu des policiers, donc c'était des policiers qui me parlent de leur propre violence du moment où du moment où ils ont un geste de trop, du moment où ils ont été obligés d'utiliser leur arme, est-ce qu'ils l'ont bien fait, pas bien fait, etc. Enfin, c'était ça toutes les discussions. Donc il y a certains policiers qui effectivement l'ont mal pris, parce qu'ils ont trouvé que je donnais une image extrêmement partielle de la police. Après, il y a d'autres policiers qui l'ont aussi mal pris parce qu'ils nient cette violence. Mais effectivement, ça m'avait quand même marqué le fait que les policiers avaient trouvé que que je racontais qu'une petite partie de leur travail. Leur travail, ça consiste quand même d'abord et avant tout à répondre aux appels 17, et pour tout un tas de raisons. Enfin voilà, et j'avais été assez sensible à cette critique, même si après, je dirais que la majorité des policiers, c'est pas ceux qui m'ont critiqué parce que j'avais fait ce travail sur la violence. La majorité des policiers, c'est ceux qui avaient refusé de me parler de leur violence et qui simplement voulaient pas que ce soit, que le sujet paraisse, quoi. Voilà. Mmh.
Et après ça, t'as passé un an dans un commissariat. De quoi tu t'es rendu compte? C'est quoi peut-être les idées reçues sur la police, justement?
Je pense que la principale idée reçue, elle est un peu méta, mais en fait, elle s'incarne dans des choses très 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 concrètes. La principale idée reçue, c'est que la police c'est qu'en fait, en transformant la police, on pourrait transformer la société. C'est-à-dire cette idée que, par exemple, si la police était organisée de telle ou telle manière, s'il y avait plus ou moins d'effectifs, si elle était armée de telle façon ou pas armée de telle façon, en fait, elle pourrait entre guillemets, je sais pas, par exemple, combattre le trafic de drogue, etc., etc. Et il y a cette idée que je rencontre chez beaucoup de gens, là, même des amis qui me disent, mais en fait, il y a une volonté politique de ne pas combattre le trafic de drogue parce que ça fait vivre des quartiers. On va vite vers des idées un peu complotistes comme ça, mais en fait, non. La réalité, c'est que juste, en fait, c'est pas possible. Et qu'en fait, les policiers, en fait, ils peuvent pas mettre fin au trafic de drogue, ils peuvent pas... Enfin, quand je suis arrivé à Roubaix, ils avaient mis en place une unité des violences conjugales. Donc c'était, alors là, on parle du judiciaire, hein, c'est-à-dire c'est c'est pas tous des officiers de police judiciaire parce que c'est un grade, mais c'est des gens en fait qui font de la procédure, quoi, qui sont dans des bureaux. Enfin bon, ils peuvent aller interpeller aussi, mais donc c'est vraiment des policiers. Ils sont hyper intéressants à voir travailler parce qu'ils travaillent main dans la main avec des magistrats. Parce qu'en fait, sans des magistrats, sans des juges, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas mettre des gens sur écoute, ils peuvent pas décider de tel ou tel acte de prolongement de garde à vue, etc., etc. Et en fait, cette unité, elle avait été mise en place parce qu'on sortait des confinements et au parquet de Lille, ils s'étaient rendu compte que les violences faites aux femmes avaient augmenté. Pas tellement en nombre, mais en intensité. Les huis clos, les gens bloqués dans leurs appartements, ça fait que voilà, il y avait eu énormément d'emplois d'armes par destination. Enfin, ça avait explosé. Voilà, auparavant, c'était plus des coups portés, des gifles, des coups de poing. Et là, il y avait beaucoup de. Enfin voilà, il y a la proc de Lille qui m'avait dit tout l'électroménager y est passé. Il y avait pas. Enfin, c'était voilà. Et du coup, ils avaient mis en place concrètement à Roubaix une unité de 10 policiers. C'était surtout des enquêtrices. Mais il y avait aussi quelques hommes, et c'était souvent des jeunes, dédiés uniquement à ça. Au début de l'année, ils travaillaient chacun sur 3-4 affaires. Et c'est des affaires compliquées. C'est par exemple un type qui est sorti de prison et qui harcèle son ex. Donc il rôde autour de chez elle. Donc c'est hyper dur à travailler policièrement parce que ben, la dame, elle appelle la police. La police arrive, mais le temps qu'elle trouve le bon bâtiment, etc., le type, il est parti. Après, comment vous voulez prouver qu'il était bien là? Enfin, et où il y avait par exemple un autre type qui arrivait cagoulé et qui allait harceler la fille de son ex-conjointe. Donc voilà, c'est pareil, c'était un type cagoulé sur de la vidéosurveillance toute pourrie. Enfin, de travailler avec les flics, ça m'a permis de me rendre compte à quel point les images de vidéosurveillance sont toutes, mais... Enfin, les deux choses qui servent à rien dans la société, c'est d'une part les vidéosurveillances privées qui donnent que des images nulles et les trucs type Vérissure, c'est-à-dire les sociétés privées qui sont appelées quand il y a un cambriolage. C'est nul, c'est absolument inefficace. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin de l'année...
Ils vont pas aimer.
Voilà. À la fin de l'année, ces policières qui travaillaient sur les violences conjugales, elles travaillaient sur 100 dossiers par tête. En tout, elles avaient 1000 dossiers. Ça veut dire que, comme elles s'étaient mises à de plus en plus travailler sur les violences conjugales, bah du coup, des affaires qui auparavant seraient un petit peu... Enfin, auraient pas forcément été traitées. Des petites affaires de harcèlement, des choses comme ça. Mais comme il y a une sensibilité sociale et qu'on sait que ça peut commencer avec du harcèlement et puis ça peut finir avec un féminicide, bah le parquet, les magistrats disent « Bon, en fait, non, maintenant, on laisse plus la petite... l'affaire... on la laisse plus dans un... On essaie vraiment de l'investiguer, etc. » Mais sauf que les effectifs, ils ont pas triplé. Et du coup, ça veut dire que Marion... Dans le livre, il y a une enquêtrice, je l'ai appelée Marion, J'ai changé les prénoms. Elle a 24 ans et quand elle arrive au boulot le lundi à 9h, et ben elle se demande sur laquelle des 100 femmes potentiellement victimes de violences ou ayant été victimes de violences présumées, elle va travailler. Alors heureusement, c'est pas un choix qu'elle fait seule, mais durant l'année, concrètement, il y a deux policières qui sont parties en burn-out quoi, de cette cellule. Donc voilà, ça c'est le premier truc qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point en fait c'est un travail dans lequel il y a une frustration énorme qui est, ben en fait je suis relativement inefficace. Ce que je fais, en fait, c'est une sorte de mouvement perpétuel. Et voilà, ça, c'est le premier... Ouais, je dirais que c'est l'élément qui m'a le plus marqué.
Et tu dirais, alors... Parce qu'en fait, quand je t'écoute, je me dis, bah, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est augmenter à mort les effectifs de la police. Tu vois, on pourrait dire ça, ou pourquoi pas mieux les payer Et en fait, moi j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Alors j'ai deux impressions qui s'opposent quasiment. La première, c'est que la délinquance ou l'insécurité, on va dire, l'insécurité, c'est un vrai business, c'est-à-dire politique ou Vérissure, tu vois, typiquement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de politiques qui s'appuient sur qui font peur finalement. Et qui, voilà. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que. La violence quelque part de la société fait qu'il y a effectivement de la violence enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, il y a de la violence dans la société, c'est-à-dire que la violence de la société, c'est-à-dire le fait que il y a de plus en plus d'inégalités profondes entre les ultra riches et les populations modestes, enfin tu vois, j'entendais dernièrement que maintenant ils mettent des produits pour les vols de steak haché congelés, parce qu'en fait les gens volent de la viande, ils ont plus d'argent, en fait ils n'arrivent plus à vivre. Donc il y a une sorte de violence de la société qui fait qu'il y a une forme de violence concrète dans la société. J'ai les deux sentiments. Donc est-ce que d'après toi il faudrait effectivement largement augmenter les effectifs de la police, est-ce que ça résoudrait le problème, et est-ce que cette insécurité, c'est pas surtout un business politique sur lequel des partis surfent?
Ben, la police, on pourrait aussi la supprimer. Il y a des sociologues qui proposent ça. Alors, c'est sûr que c'est une idée à laquelle moi... parce que je lisais pas mal de littérature un peu d'extrême gauche quand j'étais en immersion dans le commissariat. Ça me permettait aussi de décoller du terrain. Parce que, évidemment, la méthode immersive, ça fait rentrer en empathie avec les gens. Du coup, c'était bien aussi de réfléchir. Et souvent, les sociologues qui disent qu'il faut supprimer la police, c'est des gens qui disent, bah, politiquement, en fait, il faut pas tellement s'intéresser à quelle police on met en place, il faut surtout essayer d'imaginer un monde dans lequel on n'ait plus besoin de police, entre guillemets. C'est un monde dans lequel il y ait... Et c'est sûr que c'est intéressant. Après, moi, quand je sortais d'une après-midi où j'avais passé une heure à courir derrière un type de la BAC armé d'un pistolet mitrailleur parce que on intervenait dans un immeuble où une maman avait appelé parce que son voisin d'au-dessus était descendu avec un 9 mm parce que sa petite fille, elle faisait des petits pas sur le parquet. Alors c'est vrai que c'est très agaçant, mais de là à monter avec un 9 mm, voilà. Donc il y a ça, c'est intéressant de conjuguer d'un côté le côté un peu macro, social, politique et tout, et puis la réalité concrète. Mais pour répondre, c'est plus qu'un business, c'est une hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a un policier qui me dit ça, j'adore, il me dit en fait les politiques de droite, quand ils sont en plus c'est pas un flic de gauche lui, enfin il y a des flics de gauche mais lui il est pas de gauche, mais lui il vote plus, mais il dit en fait la droite quand on est en période électorale c'est la danse nuptiale, ils nous draguent quoi, ils draguent les policiers en faisant croire que voilà, sauf que quand ils arrivent au pouvoir ils se souviennent que les politiques de droite se souviennent que les policiers sont des fonctionnaires. Et du coup, ils en veulent moins. Ça veut dire que, par exemple, sous Sarkozy, donc ils sont quand même les années dont on vient, entre guillemets, puisque c'est... Et ben, en fait, la police a été, mais depuis un petit peu avant, hein, depuis le milieu des années 90, la police a été plus armée. Donc, il y a notamment les flashballs dont on a beaucoup parlé, etc. Mais on oublie souvent de dire que les effectifs ont diminué. Les années Sarkozy, 2007-2012, c'est moins 9000 policiers et gendarmes sur le terrain. Enfin, non, c'est...
Sur un effectif de combien à peu près ?
Je saurais pas dire sur un effectif de combien. Non, je veux dire des bêtises. Je ne sais pas exactement. Bah, à l'échelle du commissariat de Roubaix, par exemple, pour donner une idée, parce que c'est quand même colossal, je ne sais pas si on peut le... Mais ils étaient, il y a 30 ans, ils étaient 600. Aujourd'hui, ils sont 400.
Oui, donc on voit, c'est un tiers.
Voilà. Je ne sais pas si à l'échelle nationale, c'est un tiers, mais, ça doit être, mais peut-être que c'est dans cet ordre-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans des débats, sans sur la police, mais comme sur plein de trucs. En France, on est toujours sur des débats, comme si, des débats d'idées un peu. Mais par exemple, on parle de la police de proximité. Et donc la police de proximité, ce serait la police de gauche. Donc c'est en fait des policiers qui seraient sur le terrain pour être sympas avec les jeunes. Et puis après, il y a la police de droite, beaucoup plus offensive avec des LBD et puis et qui n'est pas là pour être sympa. En réalité, c'est quand même plus, heureusement, plus fin que ça. C'est-à-dire que les policiers que j'ai rencontrés qui ont fait partie de la police de proximité, en fait, eux, ils ne se disaient pas police de proximité. Ils disaient, en fait, on était des îlotiers. C'est-à-dire qu'il y avait avant, comme il y avait plein d'effectifs, plein de petits morceaux de commissariat dans la ville, donc des antennes, quoi. Et en fait, les policiers, ils étaient affiliés à cette antenne. Et ils patrouillaient à pied dans un quartier en particulier. Alors, effectivement, ça leur permettait d'avoir des meilleurs liens avec la population, donc d'être plus sympa, d'aller... Mais déjà, c'est important quand on entend des politiques dire « c'est pas le rôle de la police d'être sympa, c'est pas des éducateurs sociaux, etc. etc. » Il y a plein de gens pour qui la police... C'est en fait le premier, je sais pas comment dire, mais la
première sociale.
Ouais, et puis la première interface de l'État. C'est-à-dire que moi j'ai vu des policiers discuter, par exemple, pendant le Covid, avec des boulangers qui parlaient pas français et qui étaient un peu en galère et qui leur disaient, mais vous savez, vous pouvez avoir des aides au niveau de la préfecture. Et puis les gens, ils savaient pas en fait. Et du coup, le policier leur disait, voilà. Donc il y a quand même ce rôle-là. Donc et après, ils revenaient pour essayer de les faire aussi fermer quand il y avait des fermetures administratives ou quand on leur demandait un couvre-feu. Donc, mais ils sont le fait d'être à pied leur permettait ça. Mais ça leur permettait aussi, dans leur jargon, ils disent, de faire des affaires. C'est-à-dire que quand vous connaissez bien le quartier, que vous le patrouillez à pied, bah vous repérez vite cet appartement un peu louche au deuxième étage. Ou c'est même, et ça je l'ai vu hein, sur le terrain, parce qu'il y a encore des pédestres. Et ça revient, il y a un retour des pédestres dans certains commissariats. C'est le voisin qui discrètement vient voir le policier en disant, là, au deuxième, c'est un peu louche ce qui se passe. Parce que, en fait, le trafic de drogue, à l'échelle d'un quartier dans lequel il y a, je sais pas, 30 000 personnes ou 15 000 personnes qui vivent dans des tours... C'est 100 mecs qui en fait...
Ah, bien sûr.
Et en fait, les voisins, eux, leur trouille, c'est que leurs gamins rentrent dans le trafic, etc. Donc, en fait, ils n'ont pas envie qu'on les voit parler aux policiers parce qu'ils ont peur des représailles et puis parce qu'ils peuvent être un peu, parfois, anti-flics pour certains. Mais quand même... Et du coup, bah, en fait, les policiers, bah, ils voyaient cet appartement un peu louche, qui était un appartement nourrice, donc un appartement dans lequel les dealers planquent de la drogue. Pour pas se faire attraper avec une trop grande quantité
sur eux. Avec beaucoup de
voilà. Et en fait derrière, plutôt que de le taper tout de suite, cet appartement, il l'observait, il montait des planques, etc. Et c'est intéressant parce que non seulement après et ça, les policiers s'en plaignent beaucoup. Ils disent ça, on n'a plus le temps de le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, ils travaillent beaucoup en voiture. Ils arrivent, ils arrêtent et les deux, trois mecs en bas qui ont